Julien Salingue est enseignant, chercheur, doctorant. Ses recherches portent particulièrement sur le mouvement national palestinien et sur les dynamiques politiques, sociales et économiques en Palestine. Il est l'auteur de La Palestine des ONG, qui date un peu déjà, même si c'était en pleine actualité il y a quelques temps, et ça l'est toujours car le rôle des ONG y est indispensable. Il est également membre du NPA et s'attache beaucoup à la diversité médiatique. On aura l'occasion d'en discuter durant cette première demi-heure. Nous sommes avec lui. Julien Salingue, bonjour.
Bonjour.
Julien, tu es qualifié de baudruche par la fachosphère, mais tu es plutôt une belle montgolfière pour tous ceux qui veulent s'informer, et notamment sur cette situation palestinienne. C'est le cas de Vivian Petit. Tu as réalisé la préface de son ouvrage et tu interviens aujourd'hui à Rennes, une ville que tu connais bien, dont tu es originaire, pour présenter cet ouvrage. Pourquoi est-ce que Retour sur une saison à Gaza a suscité ton intérêt? Pourquoi est-ce que tu as accepté d'en rédiger la préface?
Pour des raisons personnelles et des raisons plus politiques. La raison personnelle, c'est qu'en fait, ça m'a fait penser à quelqu'un qui était parti en Palestine, lui aussi, âgé d'un peu plus de 20 ans, et qui avait découvert une réalité qui l'avait percuté et que ça avait un peu changé sa vie et qui avait essayé après de mettre des mots là-dessus. Cette personne, c'était moi, il y a une quinzaine d'années. Donc ça m'a renvoyé à pas mal de choses. Donc déjà, voilà, je me suis retrouvé un peu, alors ça fait un peu vieux con hein, de dire ça, mais je me suis retrouvé un peu dans la démarche qu'avait pu avoir Vivian. Et puis la raison plus politique, c'est que au-delà de la démarche, disons que le contenu du livre, l'approche qui a été choisie, qui est à la fois d'être capable d'allier du témoignage personnel, mais aussi de la prise de distance par rapport à la réalité quotidienne. Moi, ça m'a parlé, ça m'a plu, et j'ai eu envie de soutenir ça en rédigeant la préface, tout simplement.
Tu dis bien que c'est un ouvrage qui doit être lu, largement diffusé. Ce soir, à partir de 18h, au bâtiment B, juste en face de nous, ici à Silab, vous pourrez assister à cette discussion et cette rencontre en fait sur ce monde de Gaza. Il y a plusieurs comportements face à justement la situation à Gaza. Tu y évoques dans la préface un événement qui a été particulièrement important, en tout cas pour toi et aussi pour beaucoup de militants. Il y a beaucoup de solutions, se résigner, chercher des solutions alternatives, c'est ce que tu identifies dans la démarche de Vivian. Et puis, il y a aussi cette de résistance permanente. Toi, tu te situerais comment parmi tous ces militants-là?
L'événement en question, c'était le 31 mai 2010, l'assaut israélien contre la flottille de la liberté. Voilà, pour toute une génération de militants, ça a été quelque chose de très, très, très marquant. 9 morts, hein, je rappelle, plusieurs dizaines de blessés, voilà, des gens qui voulaient juste briser le blocus de Gaza en faisant route dans des bateaux où il n'y avait pas d'armes, bien évidemment, et qui ont subi les assauts de la marine israélienne. Voilà, donc cet événement-là a été assez marquant, et c'est vrai que ça a contribué à reconfigurer en partie les approches militantes par rapport à la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'une série de gens qui se posaient la question d'y aller se sont dit que c'était quelque chose qui devenait vraiment compliqué, et c'est une des victoires finalement de l'État d'Israël. Et ils ne l'ont pas fait pour rien. Dire de buter des gens volontairement parce qu'ils voulaient briser le blocus, c'était dire voilà ce qui vous attend si vous essayez, ce qui est quand même quelque chose qui peut percuter les gens. Et donc voilà, il y a plusieurs attitudes, c'est effectivement une certaine résignation de se dire c'est plus possible, c'est dommage, on a perdu. Il y a de continuer d'essayer d'y aller, ce qu'a fait Vivian, hein, de passer, mais alors c'est plus possible que dans des tout petits groupes ou alors individuellement. Voilà, et puis de manière plus générale, il y a d'essayer de poursuivre malgré tout le combat, et parler de Gaza, ça contribue aussi à rompre le blocus. Moi, Gaza, j'ai pas pu y foutre les pieds depuis maintenant plus de 10 ans, puisque j'ai pas le droit d'y entrer. J'ai été bloqué par les Israéliens et par les Égyptiens, donc au bout d'un moment, voilà. Puis en plus, il y a même plus tellement de tunnels, donc c'est même compliqué de rentrer en passant par là. Mais disons que continuer à en parler, continuer à ne rien lâcher et ne pas céder au chantage permanent « ce sont des terroristes, ce sont des antisémites », mais bien de rappeler de quoi on parle, une population, un siège, une situation scandaleuse, le droit international et les tâches élémentaires de solidarité, c'est une manière aussi de continuer le combat, même si c'est compliqué de se rendre sur place maintenant.
Tu dis, toi, justement, quand on accepte ça, quand on laisse faire ça, c'est un peu de notre humanité qui est en train de disparaître. Tu peux développer ?
Disons que la situation dans la bande de Gaza, souvent, il y a des partisans de l'État d'Israël qui disent « Mais pourquoi vous parlez de Gaza ? Il y a d'autres situations qui sont encore plus graves, des famines, il y a des guerres civiles, il y a... etc. » Donc, moi, souvent, ce que je leur réponds, c'est de dire bah, « Écoutez, c'est vous qui avez fait la comparaison, déjà, donc vous considérez que la situation à Gaza est assimilable à ces catastrophes dont vous venez de parler, donc merci de l'avoir dit. Mais ce qu'il y a de spécifique avec Gaza, c'est que on parle d'une situation qui est un blocus imposé par un pays qui est un pays soutenu par les pays occidentaux, par nos pays, par nos États, par nos gouvernements, qui font du commerce avec lui, qui font de la diplomatie avec lui, qui font des déclarations de soutien, etc. Et que donc, par rapport à d'autres situations où finalement on peut se sentir assez impuissant, même si on est révolté, sur la situation spécifique de la bande de Gaza, les choses politiquement sont relativement simples. Et on a des cibles ici, qui sont facilement identifiables, et donc on peut faire des choses, on peut peser. Moi, ce que je dis souvent sur la solidarité, c'est que la solidarité, c'est pas un geste pour se donner bonne conscience. La solidarité, son objectif, ça doit être efficace, et être efficace sur la Palestine et sur Gaza, c'est possible avec des campagnes politiques qui existent, avec des actions de solidarité. Et effectivement, quand je dis on perd un peu de notre humanité avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que ce qui se passe là-bas est directement de la responsabilité, de la co-responsabilité de gens qui sont nos gouvernants et qui vivent juste à côté de chez nous et qu'on peut interpeller en permanence. Et si on ne le fait pas, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens individuellement, mais si on ne le fait pas, personne ne pourra le faire à notre place, quoi.
Des actions, il y en avait eu particulièrement en 2014, après un été particulièrement sanglant, et pendant cet été sanglant de bombardements notamment. Toi, tu en appelles à une mobilisation internationale, bien sûr pas un appel à une intervention armée de ces mêmes armées qui, je te cite, sont responsables de la descente aux enfers du Moyen-Orient. Là, tu as évoqué ces principes de mobilisation, mais alors, dans le concret, cette mobilisation internationale que tu appelles de tes voeux, elle ressemblerait à quoi ?
Alors, c'est pas moi qui appelle de mes voeux à une mobilisation internationale, sinon on serait, enfin pas tout seul en tout cas, sinon on serait mal barré. Mais disons qu'il existe un mouvement international qui a été initié par les Palestiniens en juillet 2005, qui s'appelle la campagne BDS, pour boycott, désinvestissement, sanctions, qui est un message très simple, qui est de dire les États les plus puissants du monde, qui sont notamment ceux qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ne sont même pas foutus de faire appliquer leurs propres résolutions. Les résolutions des Nations Unies, c'est pas nous qui les avons votées, les résolutions des Nations Unies, c'est eux. Ils sont même pas foutus de les faire appliquer, donc tant qu'ils ne les feront pas appliquer, on en appelle aux populations, aux associations, aux syndicats, aux partis, à la société civile, entre guillemets, dans le monde entier, pour qu'elles imposent l'application de ces résolutions, et qu'elles imposent qu'il y ait des sanctions contre Israël tant que les résolutions ne seront pas appliquées. Donc ça passe par des actions de boycott, ça passe par la pression sur les entreprises qui ont des investissements en Israël, et il faut comprendre que ça fonctionne. Vous avez des banques dans les pays scandinaves qui ont retiré, qui ont expulsé des fonds de pension, qui ont expulsé des banques israéliennes parce qu'elles finançaient des logements dans les colonies. Vous avez une série d'entreprises qui ont perdu des contrats dans un certain nombre de pays parce qu'elles investissaient en Israël. Donc c'est quelque chose qui peut être efficace. Donc c'est ce type de mobilisation auquel les Palestiniens pensaient. Cette mobilisation, elle se développe, et eux-mêmes le disent, ils se sont inspirés de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'appel au boycott international sur l'apartheid, et ils le disent eux-mêmes que les Sud-Africains considèrent que le mouvement de boycott des Palestiniens se développe plus vite et mieux que celui de l'époque de l'Afrique du Sud. Donc ce qui est quelque chose quand même qui est assez, assez encourageant.
Non, on est sur vraiment quelque chose de très important. Tu as pu dire aussi, on connaît mal Gaza, ce blocus fonctionne un peu dans les deux sens. On discutait aussi avec Vivian lundi, la circulation finalement de l'information semble assez importante, même les Gazaouis ne se rendent pas forcément compte qu'en France, il y a quand même énormément de gens qui en tout cas s'intéressent au moins à cette cause, qui essayent d'y aller, qui essayent de faire des choses. Comment est-ce que ça peut jouer? Je pense que c'est une grande partie de ton travail justement d'essayer de diffuser l'information sur ce qui s'y passe.
Bah, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte ici que quand on fait une petite manifestation à Paris, à Rennes, à Marseille ou ailleurs, parce que il y a tel ou tel événement qui se passe là-bas, parce qu'il y a une visite d'un officiel israélien, etc., que cette manif, on la filme, qu'on la met sur les réseaux sociaux et qu'on la diffuse, bah, c'est quelque chose qui est super important pour les Palestiniens eux-mêmes, parce qu'ils voient qu'il y a des gens dans le monde qui se mobilisent pour eux. Et c'est important pour deux raisons. La première, c'est parce que, déjà, ça redonne un peu de courage, un peu de confiance, de dire on n'est pas tout seul. Et puis la deuxième, deuxième, c'est que ça va contre un certain nombre de discours politiques qui peuvent exister là-bas, qui consistent à dire là-bas, les Occidentaux, parce que non musulmans, parce que blancs, parce que chrétiens, s'en foutent des Palestiniens, soutiennent mécaniquement Israël parce que c'est les Juifs et les judéo-chrétiens sont un bloc, donc il faut s'organiser uniquement entre musulmans, et on ne trouvera le salut que dans des pays musulmans. Ce qui est faux, déjà, parce que les États arabes à majorité musulmane, au niveau des régimes en tout cas, ne sont pas des modèles en termes de soutien aux Palestiniens, loin de là. Et ce qui est dangereux pour une deuxième raison, c'est parce que ça encourage un certain nombre de replis qui peuvent exister en Palestine, qui sont en premier lieu de la responsabilité de l'occupant. C'est-à-dire, quand on enferme les gens, il ne faut pas leur reprocher après de se replier sur eux-mêmes. Si tu ne les laisses pas sortir, oui, ils se replient sur eux. Donc la première responsabilité, c'est l'occupant. Mais il y a d'autres niveaux de responsabilité. Et plus il y a du repli sur des aspects plus religieux, plus traditionnels, plus etc., moins la solidarité internationale peut être efficace, car en adéquation avec ce qui se passe là-bas, même si, je le dis en dernière instance, ce sont les Palestiniens qui décident qui sont leurs dirigeants, qui décident quelles sont leurs revendications, et quels que soient leurs dirigeants, quels que soient les moyens qu'ils choisissent pour lutter, ça n'enlève rien au fait qu'ils ont des droits et que ces droits doivent être respectés.
Tout peuple a le droit de se déterminer, tout ça, donc le juridique est aussi important. Si on renverse un tout petit peu ce qu'on vient de dire, moi j'ai en mémoire en 2014 une journaliste de BFM qui, sur une manif parisienne, cherchait absolument des blancs au milieu de la manif pour dire comment est-ce que des non-arabes pouvaient s'intéresser à cette question. J'ai trouvé son angle complètement, je sais pas, j'ai pas de mots, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire, chers auditeurs. Ça t'est arrivé, toi, ce genre de choses aussi, qu'on dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ce truc-là?
Souvent on me demande, oui, mais pourquoi la Palestine? Pourquoi pas autre chose? Et bien, t'as envie de dire, mais pourquoi pas la Palestine? Disons qu'en France notamment, cette espèce de surprise qui est parfois feinte, mais qui est parfois très sincère, vient d'une espèce d'impensé colonial sur le fait que la France, historiquement, a des responsabilités dans ce qui se passe dans cette région. Disons que les accords Sykes-Picot en 1916, la partition des États arabes, les mandats qui ont été votés par la Société des Nations à cette époque, la SDN, etc. Enfin, la France était au premier rang là-dedans. Donc oui, la France a une responsabilité historique dans la situation qui existe aujourd'hui au Moyen-Orient, parce que il y a l'aspect colonial, et puis parce que la France, n'en déplaise à certains, y compris dans une certaine gauche, la France a collaboré avec le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, a contribué au génocide juif, qui a joué un rôle d'accélérateur lui-même dans l'immigration juive vers la Palestine et dans la reconnaissance internationale de l'État d'Israël. Donc voilà, doublement responsable la France. Donc les personnes qui vivent en France ne sont pas à distance de cette histoire, qu'elles soient blanches, arabes, musulmanes, cathos, juives, athées, mécréantes.
Les mécréants, ça doit être nous, ça, c'est ça. Si la responsabilité n'était que historique encore, mais tu évoques notamment les liens avec les dictatures égyptiennes, le régime saoudien, notamment via les contrats d'armes, alors que Macron, et là, je te cite qui le citait, « Lorsqu'on étouffe une société, on nourrit l'amertume, l'exclusion et au bout du compte, la folie totalitaire ». Ça c'est ce qu'il disait en novembre 2015. Aujourd'hui le voilà président, on sort des commémorations bien entendu des attentats. Tu as partagé un article sur le site du NPA, je dis que bien sûr on s'associe à la tristesse des victimes et des survivants aussi, et des proches des victimes en tout cas, tristesse des victimes ça va être compliqué en effet, mais voilà, qu'aujourd'hui ce gouvernement contribue d'une certaine manière à préparer les attentats de demain. Là-dedans on peut dire que le gouvernement Macron est complètement dans la lignée du gouvernement Valls.
Pour prendre les choses dans l'ordre, il y a une actualité des questions coloniales dont je viens de parler. C'est-à-dire que la France est toujours un pays colonial. La France entretient toujours des relations de domination vis-à-vis d'un certain nombre de territoires et de pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, mais pas seulement. Comme disait l'autre, la France est universelle car elle est présente sur les cinq continents. Ça ne vient pas de nulle part. Et c'est une actualité du colonialisme français. Et quand on a des gouvernements comme le gouvernement Macron, qui sur la forme est un peu moins trash peut-être que Valls, quoi. On le voit encore ces derniers jours, Valls c'est quand même le fond du tiroir, quoi. Voilà, sur la forme est peut-être un peu moins trash. Macron avait fait des déclarations effectivement en novembre 2015 qu'il faut lire, parce qu'elles sont intéressantes. Juste après les attentats du 13 novembre, Macron dit la France a une responsabilité dans ces attentats, à cause de la fragmentation sociale, à cause de l'exclusion, à cause de toutes ces choses-là. Il ne s'était pas trop fait tomber dessus à l'époque quand il avait dit ça. On était quelques-uns à avoir dit des trucs, bon, pas exactement comme Macron, mais pas loin à l'époque. Alors là, on s'était fait traiter de collabos et tout, mais Macron disait ça. Aujourd'hui, bon, visiblement, il a oublié ce qu'il disait lui-même. Le fait, concrètement, aujourd'hui, de commercer des armes avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, de célébrer l'État d'Israël là, l'année prochaine, 2018, année de la culture partenaire France-Israël, le fait de soutenir un certain nombre de mouvements politiques qui, uniquement par opportunisme et absolument pas parce qu'on serait d'accord avec le projet qu'ils peuvent avoir, etc. Tout ça, le fait d'intervenir en permanence, de contribuer à déséquilibrer la région, de contribuer à l'armée, tout ça pour de l'influence politique, quelques marchés économiques et des gros contrats commerciaux d'armement, et bah bien évidemment que ça contribue à la déstabilisation du monde, que ça contribue à la montée des violences, et que c'est ce que j'avais écrit moi le lendemain des attentats du 13 novembre 2015, et j'ai pas une ligne à enlever à ce que j'avais écrit à l'époque. Oui, la France est en guerre, et la France vient de découvrir que la guerre ça fait pas toujours des morts chez l'adversaire. Mmh. Voilà, c'est triste, c'est horrible, comme tout le monde, moi j'ai perdu des gens le 13 novembre, mais au bout d'un moment, quand on est dans un pays en guerre, bah, ce sont des choses qui malheureusement arrivent, et tant que les guerres continueront, qu'elles soient économiques ou commerciales, et bah, il faut s'attendre à avoir des retours de bâton. Et c'est pas la victoire partielle militaire sur Daesh qui va calmer malheureusement les choses.
On se souvient de cet article, Julien Selling, et du slogan aussi « Vos guerres, nos morts » qui finalement résumait assez bien tout ça et qui a été exposé pendant pas mal de temps par les gens qui soutenaient ton travail et qui a fait beaucoup de bien cet article. En tout cas, se faire du bien quand on suit tout ça, tu le dis dans la préface de l'ouvrage que tu présenteras de Vivian Petit tout à l'heure à 18h au bâtiment B, je vous invite à vous y rendre. « Quand l'incrédulité le dispute à la colère, l'abattement à l'indignation, la tristesse à la rage », en fait, là tu parles de la situation dont tu parlais tout à l'heure, mais en fait c'est un petit peu ce qu'on peut ressentir devant chaque fait d'actualité géopolitique ou même de politique nationale. Comment est-ce qu'on fait pour réussir, continuer à s'obstiner, ne pas céder au découragement, continuer à rechercher et à travailler ?
C'est dur. C'est dur. Moi, je pense qu'il y a d'essayer de comprendre. Parce que contrairement à... Je suis énervé contre Valls, là, ces jours. Enfin, c'est pas nouveau, mais là, quand même, il est... Voilà, donc contrairement à ce que dit Valls, comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre, ce n'est pas justifier. Comprendre, c'est essayer de comprendre. Voilà, donc comprendre. Voilà, donc... bouquiner, voilà, lire des bouquins sur Gaza, lire le livre qui vient de sortir de Pierre Puchot et Romain Caillet sur l'histoire du djihad en France. Ça, on comprend un peu qu'est-ce que c'est que tout ça. Voilà, se dire il n'y a pas d'irrationnel, parce que céder à la tentation de « il y a de l'irrationnel, il y a de l'incompréhensible », c'est préparer le découragement, parce que si c'est incompréhensible et si c'est irrationnel, en fait, on peut rien faire. Voilà, on peut rien faire, on subit, etc. Ce qui rejoint, par ailleurs, toutes les explications un peu complotistes, qui sont aussi des appels à l'impuissance. C'est-à-dire, si c'est un complot qui est organisé par des forces occultes, inatteignables, et tellement puissantes qu'on ne sait même pas qui c'est, en réalité, on ne peut rien faire. Voilà, on ne peut rien faire à part regarder des vidéos de Soral. Voilà, ça va pas plus loin. Donc comprendre, c'est la première chose. Et puis la deuxième, eh ben, c'est d'essayer d'agir collectivement. À un moment, le collectif, c'est super important aussi, parce que quand t'es tout seul devant ta télé, devant ton truc, à subir la violence de l'actualité, à subir le découragement, c'est difficile. Et en fait, le fait d'être dans un cadre collectif, bah déjà, c'est un moyen de se dire qu'on est plusieurs à subir la même chose, mais y compris le découragement, d'en parler et d'essayer voilà, d'agir, parce qu'on est quand même un petit peu plus fort quand on est 5 que quand on est 1, et quand on est 1000, c'est encore mieux. Moi, je me souviens, après l'attaque contre Charlie Hebdo, il s'est passé un truc, c'est les gens étaient allés à Paris, en tout cas place de la République. Et en fait, il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui se sont retrouvés place de la République. Pourquoi elles sont allées là ? Il n'y avait pas spécialement de slogan, mais c'était, il y avait un besoin de se retrouver et voilà, de se voir, quoi, et de se dire on n'est pas tout seul. On est abattu, mais on essaie quand même de pas rester abattu chez soi. Bah voilà. Essayer de comprendre, essayer de s'organiser un peu collectivement, pour moi, c'est la base Après, c'est pas toujours facile à faire, quoi. Voilà, des fois, il y a des moments, tu déprimes pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, tu fais plus rien. Mais quand t'es dans un cadre collectif, c'est aussi là où tu peux avoir des gens qui se disent, on te voit plus aux soirées, tu vois, et d'essayer d'un peu de relever la tête à plusieurs, quoi.
S'ils ne voient plus beaucoup Julien Sélingue aux soirées, ils peuvent toujours aller voir son blog Résister à l'air du temps. Cela dit, il y a eu assez peu de publications, de même sur le site dernièrement. Bon, il y a aussi beaucoup de travail à côté, mais alors est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à quelque chose, une publication, un ouvrage peut-être?
Non, c'est vrai, j'ai pas mis à jour mon site là, ces derniers temps, c'est pas bien. Non, mais moi aussi j'ai eu un moment de gros coups de mou et de grosses difficultés à écrire, à sortir un peu de toujours la répétition des mêmes choses, parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. T'as l'impression... Enfin voilà, après chaque attentat, tu pourrais réécrire le même article, dire « Vos guerres, nos morts, tout ça, mais bon, on va pas céder, quoi. » Ou de la huitième, t'es un peu crevé. À quoi on peut s'attendre? Non, il va y avoir une mise à jour prochaine du site, c'est promis, peut-être même une refonte. Après, j'ai continué de publier des trucs, mais ailleurs, quoi. Uh-huh. Et sur les projets, il y a au moins une idée de livre, ça c'est sûr, enfin deux même, un qui est en cours et un qui est en cours d'élaboration, on va dire. Et puis dans le plus court terme, là, va falloir s'occuper de Raphaël Enthoven. Donc le prochain article concernera l'ami Enthoven.
Effectivement, Raphaël Enthoven qui se fait plaisir en ce moment, faut l'avouer, il n'est pas le seul, bien entendu. On pourrait discuter longtemps de pourquoi est-ce que la France met des intellectuels comme ça, comme BHL, comme plein d'autres, Zemmour, et à chaque fois il n'en rate pas une. Toi, une des causes aussi pour laquelle tu te bats en ce moment, et une phrase qui m'a bien plu, c'est « pour la liberté, je ne lâcherai rien », ce sont les mots de Salah Hamouri, franco-palestinien détenu en Israël. Toi, tu plaides sa cause, mais je pense que ces mots pourraient aussi très bien être les tiens. Cette cause-là, comment est-ce qu'on la médiatise davantage? Parce que finalement, on sent un grand mutisme des médias nationaux.
Sur ça là, ouais, mais alors c'est un peu comme l'Afrique du Sud et Israël, quoi. Ça va plus vite la deuxième fois. Salah a fait presque 8 ans de prison il y a une dizaine d'années maintenant. Enfin, ça veut rien dire, 8 ans de prison il y a une dizaine d'années, mais on se comprend. Et a été de nouveau arrêté le 23 août dernier. Il est en détention administrative. Et je le dis parce que je pense que le point de départ pour populariser sa cause, c'est d'expliquer dans quelles conditions il est détenu. C'est-à-dire qu'il est en détention administrative, qui est un régime de détention très spécial en Israël. C'est intéressant, il est hérité du mandat britannique. Et il avait été mis en place par les Britanniques à l'époque où eux administraient la Palestine, et c'était notamment contre les groupes armés juifs qu'ils l'utilisaient. Donc finalement, c'est une réutilisation de quelque chose, etc. La détention administrative, c'est quoi? C'est tu es détenu sans qu'on t'explique pourquoi, sans qu'on t'explique quand est-ce que tu vas être déféré devant un juge. Si tu vas être déféré devant un juge, tu n'as pas accès à ton dossier, ou alors une toute petite partie du dossier, et tu es détenu pour une durée de 6 mois, sans inculpation, sans charge précise, sans procès, et ce sont 6 mois qui sont renouvelables indéfiniment, tous les 6 mois. Et il y a eu... dans l'histoire, le record, en tout cas moi ce que j'avais trouvé dans les archives, c'était quelqu'un qui était resté 7 ans et demi en détention administrative en Israël. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait 14 renouvellements. Donc évidemment on ne souhaite pas ça pour ça là. Mais voilà, c'est un type qui est franco-palestinien, qui est détenu sans motif en Israël. Et populariser sa cause, c'est déjà de dire ça. Et puis c'est d'interpeller nos autorités, nos responsables. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un journaliste, Lou Bureau, qui était détenu en Turquie. Emmanuel Macron, paraît-il, a appelé directement Erdogan pour obtenir la libération de Lou Bureau. Mm-hmm. Pourquoi Emmanuel Macron n'appellerait pas directement Benjamin Netanyahou? Parce qu'à ma connaissance, ils ont plus de liens que Macron n'en a avec Erdogan. Puisque Macron avait même invité Netanyahou pour commémorer la rafle du Veldiv. Et ils se donnaient du Bibi et du Emmanuel. Donc visiblement, ils se connaissent bien, ils pourraient l'appeler et parler de Salah Hamouri. Donc Je pense que la campagne, elle va se poursuivre. Il y a une page Facebook, il y a une pétition, c'est Liberté pour Salah. On peut trouver ça sur Facebook, on peut trouver ça sur Internet. Il faut en parler, le populariser et puis harceler les élus, harceler les dirigeants parce que Salah, il n'a rien à faire en prison. Déjà, et puis parce que symboliquement, mais comme il le dit lui-même, c'est un prisonnier politique. Voilà, ils sont des milliers de prisonniers politiques palestiniens. Et si parler de lui, ça peut permettre aussi de faire parler des milliers d'autres. Donc bien sûr, on veut que Salah soit libéré. Il y a une campagne pour sa libération. Mais ne pas oublier que cette campagne, elle est aussi destinée à mettre la lumière sur la situation carcérale en Israël, qui est absolument scandaleuse. On a plus de 6000 prisonniers politiques palestiniens aujourd'hui. À l'échelle de la France, c'est à peu près comme si vous aviez 140 000 prisonniers politiques. Vous imaginez la gueule du mouvement social ? Mmh. S'il y avait 140 000 prisonniers politiques ?
J'espère qu'il aurait lieu, en tout cas. Ne vous abattez pas, surtout, ne vous découragez pas, obstinez-vous, interpellez vos élus, cherchez des alternatives, mais surtout, ne vous découragez pas. Suivez Julien Salingue, par exemple, sur les réseaux sociaux, où le mot-clé « tout va bien » revient souvent, avec non, sans une pointe d'ironie, bien entendu. Venez le retrouver tout de suite en face, dans le bâtiment B, avec Vivian Petit, pour cet ouvrage « Retour sur une saison à Gaza », donc l'occasion de discuter, d'échanger également. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invite.
Et puis, au plaisir de te réaccueillir à Rennes dès que ce sera possible.